Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant mort et résurrection de Jésus, vérité ou mythe. Et nous arrivons à l'étude numéro 7. Et notre thème aujourd'hui est très important, c'est comment les chrétiens surmontent-ils la fureur de Satan. Notez s'il vous plaît Apocalypse chapitre 12 verset 1. Veuillez s'il vous plaît noter les indications que je vous donne de la Sainte Bible pour que vous puissiez vérifier, c'est très important, et savoir qu'on ne vous donne rien d'autre que la Sainte Parole de Dieu. Il faut lire maintenant les versets 10 et 11 de l'Apocalypse chapitre 12. Il faut les lire ensemble. Car le premier fournit le contexte qui permet de comprendre le second. Voyez-vous, il est dit « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Chers amis, le contexte du verset 10 rappelle qu'il est ici question de la victoire de Christ, du commencement de son règne et de l'inauguration du royaume messianique. Ces événements coïncident avec la destruction de Satan, avec son éviction, rappelez-vous, du ciel. Et dans les versets qui suivent, ses attaques, maintenant plus que jamais, contre les chrétiens. Comment ceux-ci doivent-ils réagir face à tout cela? Comment la postérité de la femme doit-elle faire face à la fureur de Satan? Le texte mentionne trois choses à propos des croyants. Premièrement, ils ont vaincu Satan à cause et sur la base du sang de l'agneau. Notez chapitre 12 de Apocalypse, verset 11. Grâce à son œuvre rédemptrice glorieuse, Dieu a délivré les croyants de leurs péchés, chapitre 1, verset 5, et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, chapitre 5, verset 9. Il donne aussi à ceux qu'il a sauvés un pouvoir sur Satan, un pouvoir qui leur permet de le vaincre et de repousser toutes ses accusations, chapitre 12, verset 11. Satan, il accuse les croyants jour et nuit. Certes, il trouble nos consciences et il essaie de semer en nous des sentiments de honte, de culpabilité, d'impuissance et d'échec. Mais au-delà de tout cela, son cruel stratagème consiste depuis toujours à nous accuser jour et nuit devant Dieu, à porter contre nous des accusations desquelles il nous est impossible de nous justifier devant la majesté et devant la sainteté de Dieu. Que répondre à tout cela ? Voyez-vous, nous ne vaincrons jamais Satan simplement en disant « Oh, du reste, quand même, je ne suis pas si mauvais que ça. » Mais nous devons plutôt rétorquer « Je suis bien pire que tout ce que tu peux penser, Satan, mais Dieu m'aime malgré tout, car il m'a accepté à cause du sang de l'agneau. » En Apocalypse chapitre 12, verset 11, la locution prépositive « à cause de ». C'est un seul mot en grec, « à cause de ». Et ce mot est très important. Ce mot signifie que le sang de l'agneau est la cause, ou le fondement de notre victoire, et non pas seulement le moyen. Je répète, cela signifie que le sang de l'agneau est la cause, c'est le fondement de notre victoire, et non pas seulement le moyen. Tous les avantages et toutes les ressources spirituelles qui sont nôtres ont pour fondement le sang de l'agneau, c'est-à-dire que la mort et la résurrection de Jésus nous les a promis, nous les a donnés, nous les procure. Vous savez accepter par le Dieu Saint. Eh bien, c'est à cause du sang de l'agneau. Vous avez reçu le don béni du Saint-Esprit. Dieu l'a répandu sur vous. Pourquoi ? À cause du sang de l'agneau. Vous avez la certitude de jouir un jour de la vie éternelle dans la gloire. Ça, c'est aussi à cause du sang de l'agneau. La communion des saints, ces liens si précieux qui nous unissent à vos frères et à vos sœurs dans la foi, donc l'Église du Dieu vivant, le corps de Christ sur la terre, tout cela encore, c'est le résultat du sang de l'agneau, du sang de l'agneau qui a été versé pour vous. Vous êtes reconnaissant de pouvoir revêtir toutes les armes spirituelles de Dieu, selon Éphésiens chapitre 6. Tout cet arsenal est à votre disposition à cause du sang de l'agneau. Le privilège de s'adresser à Dieu dans la prière, la grâce de se fortifier par l'Esprit Saint, tous ces avantages, toutes ces bénédictions sont vôtres. Tout cela seulement à cause du sang de l'agneau. La moindre victoire, oui c'est ça, la moindre victoire que vous et moi pouvons remporter contre les principautés, contre les puissances et contre les dominateurs des ténèbres ici-bas, tout cela est nôtre à cause du sang de l'agneau. Chers amis, oui, tout cela fait partie de la rédemption. Imaginez un peu deux juifs qui portent les noms de famille très typiques selon le langage français, Martin et Dupont. Ils habitent dans le pays de Goshen, environ 15 siècles avant Jésus-Christ, à l'époque des 10 plaies d'Égypte. Voici que le soir est venu. Les deux hommes tiennent une conversation peu après la fin de la 9e plaie. Monsieur Martin, il dit à Monsieur Dupont, avez-vous enduit le linteau et les deux poteaux de votre porte avec le sang de l'agneau ce soir? Mais oui, bien sûr. Vous avez entendu ce que Moïse a déclaré. Il a dit que l'ange de la mort va parcourir tout le pays d'Égypte. Certaines plaies ont frappé uniquement les Égyptiens, mais d'autres ont touché tout le pays. Moïse nous a assuré que la prochaine fois, cela va toucher non seulement les endroits où vivent les Égyptiens, mais aussi le pays de Goshen, là où nous habitons. Les premiers-nés de toutes les familles et de tout le bétail seront tués, sauf ceux qui se trouvent dans les maisons qui ont été marquées du sang de l'agneau, exactement comme Moïse l'a prescrit. Alors, Monsieur Dupont marque maintenant une petite pause. Ensuite, il ajoute, voyez-vous, mon cher, je suis fou de joie, parce que tout cela veut dire que notre délivrance est proche. Bien sûr que j'ai immolé l'agneau. Mes amis et ma famille sont tous là et nous sommes fin prêts. Du reste, j'ai badigeonné soigneusement les poteaux et le linteau de ma porte avec le sang. Et vous, mon ami Martin, êtes-vous fin prêt aussi? Et Monsieur Martin de répondre, « Eh bien, oui, j'ai fait exactement comme vous. Mais pour tout dire, je suis quand même un peu inquiet. Avez-vous vu, rappelez-vous, tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois? Il y a eu les grenouilles, les poux, la grêle, la mort. Et à présent, Moïse dit que ce sera au tour des premiers-nés de périr. Écoutez, je dois quand même vous dire honnêtement, moi, voyez-vous, je n'ai qu'un seul fils. Mais vous, vous en avez trois. C'est pas pareil. J'aime mon Jean et je ne veux pas le perdre. Je suis mort de peur à l'idée de ce qui pourrait lui arriver. Oh, je dois vous dire, je ne peux pas fermer un œil et je ne vais pas fermer un œil cette nuit, ça c'est certain. » Assez étonné, Monsieur Dupont répond, « Mais qu'est-ce qui vous tracasse tellement ?»« Dieu lui-même, il a fait la promesse. Il a fait la promesse par la bouche de Moïse que si nous mettons du sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte, nous serons épargnés. Donc votre fils sera sain et sauf. Et Jean sera encore là demain matin, puisque vous aussi avez mis du sang sur votre maison. » Monsieur Martin répond, « Vous avez sans doute raison. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais que voulez-vous ? J'ai encore quand même peur. » Or, cette nuit-là, l'ange de la mort a parcouru tout le pays. Une question sérieuse, importante, chers amis. Lequel des deux hommes va perdre son fils ? Monsieur Martin ou le fils de Monsieur Dupont ? La réponse est bien entendu ni l'un ni l'autre, car l'accomplissement de la promesse ne dépend pas de la force de leur foi, une foi énorme ou pas, ni de la joie qui se rattache à leur obéissance. Mais l'accomplissement de la promesse, elle, est uniquement du fait qu'ils ont couvert par le sang de l'agneau, qu'ils sont couverts. Ils sont donc assurés, ils sont en sûreté. Tout cela par le sang de l'agneau. Abordons maintenant la question sous un autre angle. Vous arrive-t-il de vivre des jours où rien ne va plus ? Vous vous réveillez, il pleut, il fait froid, et le système de chauffage est même en panne. Vous n'arrivez pas à trouver une seule paire de chaussettes de la même couleur. Alors vous vous écorchez, en plus le gros orteil, contre un clou qui dépasse. Vous vous occupez à vous raser maintenant, paf, vous vous coupez. Ensuite, vous mourrez de faim, mais voilà que votre femme Sabina n'a absolument rien préparé pour le petit déjeuner, car elle vient de partir à une réunion spéciale avec ses amis. En plus, votre voiture refuse de démarrer. Vous savez que vous auriez dû faire vérifier la batterie, mais maintenant, elle est complètement à plat. Vous arrivez en retard au travail et les collègues chuchotent des choses pas forcément très sympathiques dans votre dos. Puis le patron vous demande, « Dites, avez-vous terminé ce rapport que je vous avais demandé hier ? Sachez que vous ne quitterez pas tant que je ne l'ai pas sur mon bureau. Pas une minute de la journée ne passe sans que quelque chose ne va gâcher votre vie. » Et voilà une belle occasion se présente à vous pour témoigner en plus de votre foi à un ami, c'est-à-dire un voisin. C'est le type qui se trouve à la station d'essence. Mais vous broyez du noir. Et quand on vous pose une question sur un point de religion, vous répondez avec une certaine brusquerie, car vous vous sentez coupable maintenant. Mais c'est trop tard, car le mal est fait. Voici que Sabina, en plus, elle prépare cette horrible tomate farcie dont les enfants raffolent, mais que vous détestez au plus haut point. Vous n'avez aucun mot doux pour elle, et évidemment, elle vous le rend bien en pareil. Les enfants font du chahut, et ils ne veulent rien entendre. Sabina veut que vous allez tondre la pelouse, mais vous voulez regarder le match de football. C'est beaucoup plus important pour vous. Finalement, le soir venu, vous vous mettez au lit après une journée assez maussade. Aussi votre prière avant de vous endormir, cela va à peu près comme ceci. Seigneur, je viens de passer une journée d'enfer. Je ne suis pas très fier de moi et j'ai même vraiment honte. Mais je n'ai pas grand-chose à dire. Pardonne-moi. Bénis tout le monde, que ta volonté soit faite, au nom de Jésus, Amen. Or voilà quelques jours plus tard, total changement. Au réveil, le soleil brille, l'air est doux, et les oiseaux chantent. Une agréable odeur de café et de croissant chaud vous tire du lit, et vous vous dites « Oh, je me demande quelle occasion on va célébrer aujourd'hui. » Sourire aux lèvres et les yeux pétillants de bonheur, vous vous douchez et vous vous rasez en sifflotant des airs chrétiens. Ce matin, vous avez vraiment la forme. Après le petit déjeuner, vous goûtez un merveilleux moment en tête à tête avec votre épouse. Vous méditez ensemble les Saintes Écritures et vous passez du temps dans la prière. Puis le travail vous appelle. Votre voiture démarre au quart de tour. Vous êtes même le premier arrivé au bureau. Et les uns après les autres, les collègues vous félicitent de votre constance au travail et de la rigueur dont vous faites preuve dans l'accomplissement de vos tâches. Tout souriant, le patron vous salue amicalement et vous dit « Ton rapport de l'autre jour est un vrai chef-d'œuvre. Sache que notre client était emballé et il a même signé le contrat. On dirait bien que je vais peut-être te augmenter. Encore une fois, bravo. » Après le travail, à la station d'essence, voilà que vous tombez de nouveau sur ce type. Et à votre extrême surprise, il vous pose à nouveau une question sur la foi. Mais cette fois, vous répondez avec sagesse, avec tact et avec courtoisie. Et pas croyable, voilà que l'homme vous déclare qu'il viendra au dîner causerie que votre église organise le samedi suivant. De retour à la maison, c'est vous qui préparez le repas. Et toute la famille est contente. Elle est contente et se trouve autour de la table. Les enfants sont calmes et respectueux. Et après avoir rangé la cuisine, vous terminez la soirée en conversant tranquillement avec votre femme Sabina. La nuit venue, avant de vous glisser sous les draps, vous vous agenouillez tous les deux pour prier. Et les mots se bousculent dans votre tête. Éternel Dieu, Seigneur de toute la terre, nous entrons dans ta glorieuse présence, le cœur rempli de gratitude et d'humilité. Nous te bénissons de toute notre âme, car tu as daigné, dans ta miséricorde et dans ta grâce infinie, nous combler de tes plus riches bénédictions. Nous ne sommes pas dignes de la moindre de tes bontés. Et vous remerciez Dieu pour chaque instant de la journée. Vous priez pour les missionnaires que votre Église soutient, même pour chacun de leurs enfants. Ensuite, vous priez pour tous les membres de votre Église qui vous viennent à l'esprit. Puis, vous vous mettez au lit, et c'est le cas de dire, vous vous endormez totalement justifié. Gloire à Dieu. Ne comprenez-vous maintenant, chers amis, que c'est sur la base du sang de Christ que nous avons la victoire sur l'accusateur? Oui, c'est sur la base du sang de Jésus-Christ que nous avons la victoire sur l'accusateur. Et cela, ni plus ni moins. C'est la seule et unique façon de le vaincre, c'est par le sang de l'agneau. Et c'est la seule raison pour laquelle Dieu nous accepte. Et c'est pour cela que dès l'instant où la croix n'est plus au centre, nous déformons ce qui est fondamental dans la foi chrétienne. Non seulement sur le plan doctrinal, mais aussi sur celui de la vie chrétienne de tous les jours, tels que l'obéissance et la persévérance en tant que disciple, de même sur le plan du combat spirituel que nous menons contre l'ennemi de nos âmes. Dès que nous nous écartons de la croix, nous avons perdu. Mais nous avons la victoire sur l'accusateur de nos frères uniquement, et je le répète, à cause du sang de l'agneau. C'est la seule base sur laquelle nous surmontons notre mauvaise conscience, nos sautes d'humeur, nos défaites, nos mauvais désirs, nos craintes et nos mesquineries. Nous pouvons sans hésiter nous approcher maintenant du Dieu saint en priant au nom de Jésus. Tout cela à cause du sang de l'agneau. Oui, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, ô agneau de Dieu, je viens, je viens. Deuxièmement, ils ont vaincu Satan à cause de la parole de leur témoignage. Notez Apocalypse chapitre 12, verset 11. Dans le premier chapitre de la Sainte Bible, Dieu parle et l'univers jaillit du néant. Sa parole sort et accomplit tout son dessein. Le message suprême de Dieu, c'est la sainte parole incarnée. Les responsables des églises exercent leur autorité spirituelle par la sainte parole. Dans ce monde, la seule arme offensive dont nous disposons, selon le langage symbolique de Éphésiens chapitre 6, c'est l'épée de l'esprit qui est, vous l'avez compris, la sainte parole de Dieu. Ainsi, quelle stratégie les chrétiens adoptent-ils? Oui, je vous le demande. Lorsque ils tentent de vaincre le diable et de déchouer toutes ses ruses dans ce présent monde, on peut dire, mauvais. Le diable, il est à l'œuvre par l'intermédiaire des systèmes politiques même et de l'État. Parfois au moyen de la corruption, des médias et de la morale en déclin, également du matérialisme effréné, des systèmes d'éducation, etc. Comment les chrétiens contre-attaquent-ils? C'est en fondant un parti politique, vous pensez? Ou en manifestant devant le palais présidentiel? Ou encore en envoyant une lettre ouverte au Premier ministre? Vous pouvez imaginer, ou pouvez-vous, je voudrais dire plutôt ça, pouvez-vous par exemple imaginer l'apôtre Paul qui serait occupé à organiser une pétition pour César? Je ne veux pas dire que tout ce que je viens de mentionner est absolument sans valeur. Pour beaucoup, nous vivons en démocratie, c'est vrai, dans un système politique très différent de celui qui prévalait au temps de l'apôtre Paul. En conséquence, en tant que chrétiens, nous devons réfléchir très sérieusement à la manière dont nous pouvons être le sel de la terre et une lumière dans une société moralement corrompue et totalement décadente. Veillons donc à ne pas nous retirer du monde en côtoyant seulement quelques membres de notre petit groupe. Cependant, au plus profond de notre être, reconnaissons que l'Évangile est vraiment la seule chose qui puisse transformer la société. Les gouvernements, ils ont la responsabilité de bien diriger et de promulguer des lois justes et bonnes. Dieu aime la justice, et toutes les nations devront lui rendre des comptes sur ce plan-là. Il faut certes rechercher le bien de la ville, selon Jérémie chapitre 29, verset 7, et de s'occuper des pauvres, évidemment. Mais, au bout du compte, n'oublions pas que l'Évangile est encore et toujours ce qui transforme la société, pas seulement les euros. De quelle façon progresse-t-il dans le monde? Il est dit qu'ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause de la sainte parole de leur témoignage. Notez Apocalypse chapitre 12, verset 11. Cela ne signifie pas qu'ils ont souvent donné leur témoignage. Peut-être pas toujours. Mais ils parlent de l'Évangile. C'est-à-dire, ils évangélisent par tous les moyens, un tract, un Nouveau Testament, un CD, etc. C'est la façon privilégiée de rendre témoignage de Christ. L'Évangile, elle ne progresse pas automatiquement et uniquement, comment est-ce qu'il faut dire, d'une façon, je voudrais dire, plutôt, oui, comment est-ce qu'on dit aujourd'hui, enfin, ça me reviendra. Nous ne pouvons pas transformer la société autrement que en proclamant l'Évangile, voyez-vous? Alors, nous avons la victoire sur Satan, sur la base du sang de la croix et à cause de la sainte parole que nous annonçons. Et j'ai retrouvé le mot que je voulais vous dire. Tout cela n'est jamais sur une base uniquement virtuelle, fantastique ou éphémère, mais pas du tout. Voyez-vous, Dieu a choisi de sauver des hommes et des femmes uniquement par la folie de la prédication de son message. Notez encore une fois, et on l'a tellement noté, dit Offenbarung, Apocalypse chapitre 12, verset 11. Là, cela ne traite pas seulement du moyen dont nous disposons pour faire face aux accusations du malin. Tout d'abord, et avant tout, nous combattons Satan par la proclamation inlassable de l'Évangile. Voyez-vous? Ce n'est pas du virtuel, ça. Le royaume de Dieu s'étend donc par la puissance de l'Esprit Saint au moyen du ministère de la Sainte Parole. La prédication de la Sainte Parole ne diminue en rien l'importance de l'action sociale, pas plus qu'elle dispense totalement de chercher à comprendre les implications sociales qui découlent de l'Évangile. Cependant, rappelons-nous que ce sont des implications qui découlent de l'Évangile. Oui, c'est l'Évangile que nous annonçons. En conséquence, la seule façon pour nous de perdre cette bataille, ce serait de rester totalement muet. c'est en quelque sorte notre silence, mon silence, qui assure dans une certaine mesure la victoire de Satan. Mais en général, le Dieu de la Sainte Bible emploie des moyens. Il a décrété que l'évangile s'étendrait par la folie de la prédication de la Sainte Parole, et cela au moyen du témoignage des chrétiens au sujet de Jésus-Christ. Le nœud de la question est que nous avons la victoire sur le diable en rendant témoignage de Jésus. Ils ont donné hier soir à la télévision suisse, pendant plus de 2 heures, avec des témoignages, comme quoi des milliers de personnes, pas seulement en Suisse, dans toute l'Europe, se convertissent en devenant musulmans authentiques, soi-disant qu'il y a un plus grand épanouissement. On les entoure beaucoup mieux. On leur explique le bonheur qu'ils vont avoir de devenir et de se convertir musulmans. Figurez-vous, on était autrefois en Europe, mais pas seulement, des chrétiens, c'est-à-dire de base chrétienne, de religion chrétienne. Et attention, bientôt, ce seront les musulmans, les les extrémistes islamiques qui vont prendre le dessus. Il ne faut pas prendre cela à la légère. C'est une honte à nous, car nous restons placides, nous n'avons ni zèle ni volonté pour faire la moindre des choses pour Jésus-Christ. Nous restons les bras croisés en regardant comment des milliers de personnes se convertissent et deviennent musulmans. Ce n'est pas moi qui vous le dis ou qui l'invente, ce sont des faits authentiques et dans les journaux, dans les magazines, à la télévision et pas plus tard qu'hier soir, toute une série d'émissions en Suisse. Et il y en aura évidemment dans le monde entier. Et troisièmement, il est dit qu'ils ont vaincu Satan en n'aimant pas leur vie jusqu'à craindre la mort. Chapitre 12, verset 11, toujours. Ils ont donc remporté la victoire sur le diable simplement parce qu'ils étaient prêts même à mourir pour Jésus-Christ. Il était autrefois courant pour les chrétiens d'écrire des livres sur la façon de bien mourir. À une certaine époque, les croyants demandaient à Dieu de ne pas leur permettre de dire quoi que ce soit qui porterait ombrage à la croix de Jésus-Christ si leur état mental devait décliner au point qu'ils perdent le contrôle de leurs pensées. Il s'agissait de croyants qui adhéraient à la discipline spirituelle. Entendez-vous ce genre de prière aujourd'hui? Je ne pense pas. Oh non. Mais je pense plutôt qu'il est très probable d'entendre « Seigneur, donne-moi une autre dose de morphine afin que je n'aie plus à souffrir. » Et, si possible, une assez forte dose pour que je puisse passer dans l'autre monde. Mais je ne sais pas dans lequel, puisque la plupart ne croient absolument pas que Dieu existe. Gott ist gestorben, Dieu est mort. Oui, oui, oui. Voyez-vous, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce texte reflète un point de vue sur la mort bien différent de celui qui a cours dans le monde moderne. Supposons que vous faites officiellement partie des autorités d'un gouvernement hostile à l'apôtre Paul et au Christ qu'il annonce. Entre autres, on pourrait nommer la Corée du Nord, mais il y en a beaucoup d'autres. Comment allez-vous réagir? Le faire mourir? L'apôtre Paul lui-même a écrit « Pour moi, Christ est ma vie, c'est-à-dire vivre, c'est vivre et annoncer l'Évangile, et la mort, elle m'est un gain. » Philippiens, chapitre 1, verset 21. Voyez-vous, nous jouissons en Occident d'une liberté telle que nous perdons de vue les souffrances qu'endurent nos frères et sœurs dans d'autres pays. Selon des statistiques élaborées sur les persécutions dirigées contre les chrétiens depuis 10 ans, environ 160 000 croyants souffrent le martyre chaque année. Cela n'est pas difficile à croire, car au seul Soudan du Sud, par exemple, on compte au moins 2 millions de martyrs au cours des 15 dernières années. Cela signifie que pour l'ensemble des chrétiens du monde entier, un croyant sur 200 sera donc tué à cause de sa foi, et même cette année maintenant. Bien entendu, les martyrs ne se répartissent pas uniformément entre les communautés et les différentes églises, mais considérer la question sous un angle plus grand, cela ne change-t-il pas notre point de vue? Très peu de nous, dans les pays occidentaux, sont appelés à souffrir de façon semblable, bien que dans certains milieux, le recours au sarcasme, au ridicule, à la menace de perdre son emploi, soit de plus en plus courant pour réduire les chrétiens au silence et affaiblir la force de leur témoignage. Un élu en France, un maire d'une importante région, avait simplement, avec un ami instituteur, pensé de bien faire, de dire à des élèves de faire une dictée sur l'Évangile. L'Évangile de Jean, en l'occurrence. Eh bien, croyez-le ou pas, le maire de cette région, et y compris l'instituteur, ont été mis à pied. Et oui, et être mis à pied directement au point levé du jour au lendemain, ça veut dire d'avoir des problèmes graves financiers dans un très proche avenir. Voyez-vous, dans de nombreuses parties du monde, la fidélité à l'évangile de Jésus-Christ est tout simplement une affaire de vie ou de mort. Un autre principe encore plus fondamental est cependant en jeu. On appelle aux chrétiens à mourir à soi-même, à moi-même, en tant que chrétien. Oui, nous devons tous prendre notre croix et suivre Christ. Et cela veut dire que par un acte conscient de la volonté et fortifié par le Saint-Esprit, nous décidons chaque jour de mourir à nos intérêts personnels et de promouvoir ceux de Jésus-Christ. En effet, le renoncement à soi, qui fait partie intégrante de la nature même de notre appel à suivre Jésus, est également l'un des trois moyens pour vaincre le diable. Satan est rempli de fureur, car il sait qu'il lui reste que peu de temps. Qu'en est-il des chrétiens? Ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à craindre la mort. Comment peut-on enrayer un mouvement dont les membres, par la grâce fortifiante de Dieu, sont prêts à mourir à leur intérêt personnel, uniquement pour servir de Dieu vivant. Conclusion. Chers amis, deux applications revêtent une importance capitale pour nous. Premièrement, nous devons analyser notre culture sous les angles bibliques et théologiques et pas seulement sous les angles sociologiques et psychologiques. Cette nécessité s'impose à chaque nouvelle génération. Oui, nous avons beaucoup à apprendre des différentes disciplines. Mais comprenons bien que Apocalypse chapitre 12 présente, par rapport aux problèmes et aux enjeux auxquels l'Église fait face, une analyse qui va beaucoup plus loin que nos analyses habituelles. Elles s'en tiennent en effet, bien trop souvent, aux seules dimensions sociologiques, démographiques, historiques ou autres. Certes, il nous faut aussi comprendre, évidemment, ces dimensions et en tenir compte, mais l'analyse d'Apocalypse 12, elle propose et renferme une portée spirituelle et cosmique. Et à ce titre, elle fournit la réponse chrétienne la plus fondamentale qui soit. Martin Luther, il en avait saisi la portée. Voici ce qu'il a écrit. Que les démons forge des fers, menace ton église. Ta Sion brave les enfers sur le rocher assise. Constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire. Or pour briser son empire, il suffit d'un mot, du Dieu fort. Et ce mot, c'est la parole de l'Évangile. Et deuxièmement, pour terminer, nous devons utiliser les armes dont Christ nous a pourvus, c'est-à-dire les armes en lien direct avec sa mort en sacrifice pour nos péchés. Ce sont les seuls dont nous disposons qui soient efficaces. Allons donc à la croix pour vaincre l'accusateur de nos frères. Rendons témoignage de Christ, et cela sans cesse et en toute occasion, et triomphons de l'infâme calomniateur. Faisons preuve de courage et d'intégrité dans notre lutte, car ceux qui suivent le prince de la vie, et ils ne craignent pas la mort, c'est ainsi que nous aurons le dessus sur le père du mensonge. Prions maintenant ensemble. Seigneur Dieu, garde-nous de nous sentir trop à l'aise dans notre société de facilité et d'agitation, au point d'oublier que la dimension la plus fondamentale de la vie chrétienne, c'est le combat. Le combat pas contre la chair et le sang, mais contre les hordes des ténèbres qui sont remplies de fureur contre nous. Aide-nous, Seigneur, à voir l'ennemi et à le combattre avec les armes spirituelles de l'Évangile, les seules qui permettent de le vaincre dans cette lutte. Ramène-nous à la croix et renouvelle en nous le désir brûlant de proclamer fidèlement le glorieux message de l'Évangile. Réapprends-nous à mourir à nous-mêmes afin de suivre le Seigneur Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour nous. De plus, Seigneur notre Dieu, garde-nous de surestimer la puissance du diable. C'est un ennemi déjà vaincu en principe, même s'il exerce encore sa brutale méchanceté et déchaîne sa fureur contre nous. Nous te rendons grâce pour la victoire de l'agneau. Mets une garde autour de nos pensées. Apprends-nous à nous imposer une sainte discipline et donne-nous, Seigneur, de mieux voir que les vrais enjeux auxquels sont confrontées toutes les églises locales ne concernent pas des questions de politique interne, de lutte d'influence, de concours de popularité entre membres, de disputes d'affaires sans véritable importance, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Et il agit souvent avec subtilité et avec ruse, au point de séduire même les élus, si cela était possible. Seigneur, ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et maintenant, j'aimerais vous transmettre quelque chose que j'ai reçu dans le cœur pour votre enseignement personnel, mais aussi pour votre instruction spirituelle. Écoutez bien. Le Seigneur prend soin de votre avenir. Ses voies sont admirables. Elles sont au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Prenez toujours mieux conscience de sa libéralité et de sa bonté. Une vie dirigée par Jésus-Christ, c'est une vie d'une expérience merveilleuse. Et combien belle! Vous allez comprendre toutes ces choses avec toujours plus de force et vous en aurez une joie grandissante. Et déjà, vous en êtes presque arrivé à pouvoir demander ce que vous voulez, avec la certitude de l'obtenir. Vous voilà donc engagé dans une étape merveilleuse, car Jésus peut préparer votre avenir et faire reposer sur vous sa bénédiction beaucoup plus librement qu'autrefois. Votre victoire, c'est donc dès maintenant, elle est acquise, car vous avez compris que tout n'est bon qu'à être mis au rebut quand il s'agit de le gagner, lui, Jésus-Christ. Et les promesses faites à celui qui vaincra sont magnifiques en vérité, et ils auront leur accomplissement absolument certain. Et maintenant, je voudrais vous transmettre un ou deux chants d'un très lointain passé, 1962. Évidemment, l'audition n'est plus aussi parfaite, car elle a perdu beaucoup de sa netteté, et j'avais dû enregistrer cela avec des moyens tout autres qu'on peut le faire aujourd'hui. Mais soyez donc bénis, car Dieu vous aime, et moi je vous aime de tout mon amour, et je vous embrasse maintenant. Oui, avec tout mon amour, soyez donc bénis, et à demain matin pour la suite de cette série. Au revoir.
Many years ago, in days of child,